9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous, camarades auditeurs, ravis de vous retrouver en ce dernier vendredi du mois de mars. Oui, je sais, plus beaucoup de temps avant l'inévitable. Eh oui, le ramadan. Alors conseillons, mon cher Philippe, conseillons à nos auditeurs de se bourrer la poire durant les quelques jours qui restent, voire même de bourrer tout court d'ailleurs, car quand le ramadan sera là, sage, tu deviendras pieux à l'extrême. Tu seras et plein de du bilan, El Shaitan, tu diras. Mais tout ça est normal, c'est le côté double personnalité du musulman. Des bêtises toute l'année et un mois pour se faire pardonner. D'ailleurs, je précise à nos auditeurs que dans la mesure où ce n'est pas encore le ramadan, ce week-end, ils peuvent aller se ressourcer au salon du Bourget, car il se tiendra le salon de l'érotisme, et ce, après 3 ans d'absence. Alors, je me suis renseigné, hein, auprès de vous, d'ailleurs, mon cher Philippe, grand connaisseur.
Au Bourget, je connais des salons, mais pas encore celui-là.
Grand connaisseur de ce salon. Et cette année, on peut le dire à nos auditeurs, vous serez au stand numéro 25 pour vendre des calendriers de vous en tenue légère. Calendrier également disponible sur le site de Beurre FM. Mais non, je plaisante évidemment.
Ben oui.
Et croyez-moi que je n'ai pas le cœur à plaisanter. Et comme dirait Roger Jiquel, que seuls vous et moi connaissons, mon cher Philippe.
Voilà, la grande star du journal de 20h des années 70.
La France a peur. Oui, j'ai peur. Je tiens d'ailleurs à vous signaler, mon cher Philippe, que pas plus tard que lundi dernier, deux types, l'air patibulaire, dans une camionnette blanche, ont volé mes cheveux. Alors vous qui avez un paquet de cheveux, mon cher Philippe, méfiez-vous. Alors je sais que l'auditeur doit se dire, mais l'information de Metzeran est débile. Oui, c'est vrai, elle est débile, mais elle est aussi débile que la légende urbaine qui prête aux Roms le fait de circuler dans une camionnette blanche et de voler des enfants, en particulier en Seine-Saint-Denis. Résultat, des Roms se sont fait tabasser, des camionnettes ont été incendiées. Bon, tu me diras que depuis ces événements, j'ai pas vu un Rome à un feu rouge, mais quand même, trêve de plaisanterie. On parle de familles entières terrorisées qui vivent déjà dans les pires conditions et qui deviennent le gibier de quelques fous furieux. Dois-je rappeler que sur le 93, aucun signalement sérieux n'a été fait à la police ou à la gendarmerie. Le procureur de Bobigny n'a jamais été saisi pour un enfant qui aurait été enlevé à leurs camarades. On cesse sa paranoïa, on ne traque pas les plus vulnérables d'entre nous. Je vous l'ai dit, mon cher Philippe, aujourd'hui, je n'ai pas forcément le cœur à plaisanter. Par contre, j'ai le cœur à répondre aux questions des auditeurs qui peuvent nous appeler au 01 53 48 3000, émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon, dont je rappelle que le stand au Salon de l'érotisme est le numéro 25. Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Merci Maître Serran, merci, spéciale dédicace à Christophe, Monsieur Christophe, qui ce matin nous a fait un excellent gâteau.
D'accord.
C'est délicieux.
D'accord, bon, au niveau visuel, non mais c'est un gâteau, c'est deux choses. Visuellement, il faut que ce soit sympathique.
Oui.
Bon, là visuellement, c'était un peu hard quand même.
Hein. Ça ressemble à des bugnes.
Ça ressemble surtout, encore une fois, à un gâteau tombé à même le sol et avec un paquet de miettes récolté rapidement. Et je signale que c'est un petit peu gras.
Non.
Voilà, j'en ai plein les doigts.
C'est pas un petit peu, c'est carrément gras. Mais c'est souvent quand c'est gras que c'est bon.
C'est vrai. Donc on le remercie chaleureusement et on espère goûter à nouveau cet excellent gâteau.
Ouais, mais attendez, je sais pas ce qu'il lui a pris d'ailleurs.
J'en ai aucune
Peut-être
idée.
Il a acheté l'encyclopédie de la cuisine à la maison.
Ouais, donc, surtout besoin de cobaye, je crois. C'est surtout ça l'histoire.
Bon, c'était délicieux. Merci, ce bon vieux Toff que vous retrouverez dimanche pour parler cinéma entre 11h et midi sur Beurre FM. Retour en juin 2016, Maître Serran, et une histoire. Est-ce qu'on peut retirer à une femme de la nationalité française qu'on vient de lui accorder en invoquant son refus de serrer la main à un homme pour raison religieuse?
Alors c'est très surprenant comme histoire. C'est une décision qui a été rendue, en tout cas la dernière décision du Conseil d'État est assez récente, date d'avril 2018. Et alors pourquoi j'en parle? On l'avait évoqué dans une précédente émission assez rapidement. J'en parle parce que j'ai une cliente qui en gros, a eu à peu près la même attitude. Alors, les faits sont simples, c'est-à-dire que c'est une femme qui a souhaité acquérir la nationalité française par mariage. Donc toutes les conditions étaient réunies. Donc il faut savoir que dans ces circonstances-là, quand vous êtes de nationalité étrangère et que vous vous mariez avec une personne de nationalité française et que le mariage a duré à minima 4 ans, que vous êtes sur le territoire français depuis au minimum 3 ans, donc vous réunissez les conditions qui vous permettent de saisir les autorités préfectorales et de demander à bénéficier de la nationalité française. Alors il y a toute une série de documents, il y a toute une série de contrôles qui peuvent être faits, donc c'est un parcours qui est pas si simple, mais à partir du moment où vous avez une réponse positive, c'est entre guillemets dans la poche, en tout cas c'est ce que pensait cette femme, mais il faut savoir que depuis quelques années, les autorités françaises organisent des cérémonies, donc il y a un petit côté officiel comme ça au sein au sein de la préfecture, et je crois que c'est une bonne chose, c'est pas anodin quand même de se voir attribuer la nationalité d'un pays, donc je trouve ça moi plutôt sympathique. Et chose curieuse, comme quoi la bêtise n'a pas de limite. Chose curieuse, au moment de la cérémonie, donc cette femme, pour des raisons, alors pour elle, religieuse, mais ensuite elle plaidera que non, a refusé de serrer la main aux représentants du préfet. Bon, alors on peut comprendre que le fait de pas serrer la main lors d'une remise officielle de la nationalité française, ça peut causer un certain désordre, et les conséquences ont été immédiates. Le Premier ministre a tout simplement pris un décret, donc un texte, qui refuse d'attribuer à cette femme la nationalité française, au motif notamment qu'il y aurait un défaut d'assimilation. Ce texte donc a été contesté par cette femme. Il n'y a qu'une seule juridiction qui s'occupe de ça, c'est la plus haute juridiction administrative, c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a confirmé cette situation en considérant que ce geste de cette femme, alors que cette femme donc a ensuite plaidé que ça n'avait absolument rien de religieux, mais le Conseil d'État donc ne l'a pas suivi. Le Conseil d'État a effectivement considéré qu'il y avait, en tout cas qu'on pouvait considérer qu'il s'agissait d'un défaut d'assimilation. Alors, moi, je suis toujours surpris par la bêtise humaine. C'est-à-dire, c'est quand même assez extraordinaire. Et tous ceux qui ont sollicité la nationalité française savent que c'est un parcours du combattant. L'administration est assez difficile à convaincre. Donc, c'est un parcours du combattant, mais c'est comme si vous couriez un 100 mètres et puis 50 centimètres avant l'arrivée, vous vous arrêtez tout net et on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est le comportement de cette femme qui s'est faite blackbouler par la juridiction. Il faut que les auditeurs comprennent qu'en dehors des conditions formelles, c'est-à-dire des actes d'état civil à réunir, de justifier que votre conjoint travaille, de justifier que vous avez un domicile, il y a, et en tout cas vous allez être scruté là-dessus, il y a un comportement à avoir. Vous voyez, par exemple, dans les questions...
D'accord, mais quand vous dites il y a un comportement à avoir, est-ce qu'il y a une... Alors, je sais pas, un livret, quelque chose qui dit, voilà, pour la cérémonie... Voilà le comportement que vous devez adopter.
Non, il n'y a pas. Alors, le seul livret que les uns et les autres en la matière peuvent trouver, c'est un petit livret avec toute une série de questions, puisque vous avez un petit entretien quand même.
Alors, c'est pas. Mais on vous le remet, ce livret.
On vous remet ce livret, et dans les petites questions, vous y trouvez quoi? Eh ben, tout ce qui a rapport à la République, tout ce qui a rapport à la laïcité. Donc on ne peut pas dire, entre guillemets, que l'administration française vous a pas prévenu. Mais indépendamment du livret, je suis quand même, moi, assez surpris qu'on arrive devant le préfet pour la remise d'un document qui dit « Chère madame, à notre sens, vous méritez d'être française », et à ce moment-là, faire tout exploser. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un comportement à avoir. Faut pas être schizophrénique. Mais, et ça peut sembler terrible pour cette femme, puisqu'elle est évidemment de facto blacklistée, ça peut sembler terrible, mais voilà, l'avocat que je suis, moi je considère que c'est tout à fait normal et que c'est quasiment craché sur le visage de la République de refuser de serrer la main au représentant de l'État qui vient vous remettre un document qui dit « Chère madame, on considère que vous êtes français. Bon, ça pose difficulté. Donc, je le redis, il faut faire attention indépendamment des conditions classiques à réunir. Vous serez scruté sur votre comportement. Vous voyez, par exemple, parmi les questions qui sont posées, et là, c'est par contre un peu plus problématique, parmi les questions qui vous sont posées, on demande à la personne si vous retournez dans régulièrement dans votre pays d'origine. Alors, inutile, évidemment, de leur mentir, puisque si on vous pose la question, c'est qu'ils ont la réponse.
C'est qu'on peut avoir la réponse facilement, voilà. Oui, bien sûr.
Le passeport, j'allais presque dire, apparaît sur l'écran de l'intéressé. Bon, là, c'est un peu plus problématique. Moi, je considère que rien n'interdit de retourner dans son pays d'origine et même de manière très fréquente. Mais voilà, à partir du moment où vous avez toute une série de questions, alors soit vous aimez entre guillemets la France et vous faites tout pour obtenir sa nationalité, mais indépendamment de ça, vous pouvez être complètement cynique et jouer le jeu jusqu'au bout, mais de là à dévoiler son masque à la dernière fraction de seconde, c'est vraiment le comportement le plus débile qu'on puisse constater. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce que on a été contacté il y a 10 jours par une personne qui a eu également un comportement. Alors c'était pas un refus de serrer la main à un représentant de l'État, mais c'était un comportement encore un peu plus problématique, notamment dans la tenue avec laquelle la personne est venue. Donc voilà. Donc je veux dire, au bout d'un moment, il faut pas faire preuve d'idiotie. Je le redis. Donc soit c'est une volonté de votre part et ça vient du fond des tripes et on peut le comprendre et vous avez envie de devenir français, mais à défaut, au moins soyez, alors pardon pour le terme qui est pas joli, mais un petit peu plus malin. Et je trouve ça complètement débile d'aller se dévoiler comme ça à une fraction de seconde. Bon, voilà. Mais vous savez, ça, je l'entends moi très régulièrement.
Il n'y a pas une hypocrisie en tout cas dans
Mais c'est pas. Alors qu'est-ce qui est le plus stupide, c'est l'hypocrisie ou le fait de se comporter comme une débile? Enfin, après, il faut être aussi en cohérence avec soi-même. Mais vous savez, moi, il y a quelques années, puisque ça fait maintenant quelques années, je suis avocat. Lorsque les personnes venaient nous voir pour devenir français, ces personnes, on avait presque le droit à une lettre de motivation, c'est-à-dire qu'on nous disait pourquoi, ouais, comment, ça les prenait aux tripes. Et depuis maintenant, on va dire 5-6 ans, quand on vient me voir et on me dit
c'est un droit,
voilà, devenir français. Alors c'est un droit, mais un droit pourquoi? En fait, on vous dit, bah ça me permet, ouais, de pouvoir circuler plus facilement, et puis j'ai plus de visa à solliciter. Donc ouais, la philosophie n'est plus la même. Donc c'est ça qui est assez particulier. Mais j'ai vu encore une fois cette évolution. Alors est-ce que c'est à cause des autorités françaises? Est-ce que c'est l'état d'esprit de ceux qui demandent la nationalité française? Mais en tout cas, les motivations sont devenues complètement différentes. Mais je le redis, encore une fois, quitte à jouer le jeu, soyez intelligent et jouez le jeu jusqu'au bout. Ne vous faites pas blacklister à la dernière fraction de seconde.
Le conseil de Maître Serran. Je rappelle que dans un instant, vous posez vos questions en direct à Maître Serran au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM. Vous posez toutes vos questions. Si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, vous pouvez bien sûr appeler Maître Serran sur son téléphone portable, qui Absolument. Est tout neuf. Donc vous appelez-le.
Ouais, c'est vrai. Donc je rappelle, acheté par ma maman. Hein, donc
très beau téléphone portable.
Merci maman. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Maître Serran répond à toutes vos questions juridiques au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de Beurre FM. Maître Serran, vous êtes prêt? Et nous avons Jafar qui vous attend au standard. Bienvenue Jafar.
Bonjour Monsieur Philippe, bonjour Monsieur Serran, bonjour.
Bonjour Jafar.
Oui, moi je suis VTC, je vais vous poser une question juridique si ça ne vous dérange pas.
Bah, j'espère pouvoir y répondre, allez-y.
Merci. Voilà, je suis VTC et j'ai été arrêté par les BOER, c'est-à-dire la police des VTC et les taxis.
Ouais.
Et on m'a adressé un PV mois de mars 2018 et j'ai passé une commission en janvier 2019 et j'ai écopé de 20 jours de suspension par la préfecture du 15e.
Ouais. Il vous était reproché quoi?
Comme quoi que j'avais une application ouverte à Montparnasse, alors que tout le monde fait ça, ça ne veut pas dire qu'on est autorisé.
Ouais, enfin, ouais, vous le dites vous-même. Quand tout le monde fait ça, on est d'accord.
Je le sais.
Voilà. Bon, c'est bien. Ouais, mais vous en avez conscience, en tout cas.
Je suis d'accord avec vous. De toute façon, l'excuse que j'ai donnée, qui était réellement valable, j'avais déposé un client et je me suis éloigné de Gare Montparnasse 200 mètres. Et ils sont venus avec leur voiture civile. Ils ont trouvé une des applications qui... L'application avec qui j'ai pris le client était ouverte par vraiment... j'ai oublié de l'éteindre. Ils m'ont fait un billet pendant 45 minutes. Et bon, en dehors de ça, c'est pas ma question. C'est que j'ai écopé de 20 jours de suspension. Donc, j'ai eu à peu près entre 3000 et 3500 de chiffre d'affaires perdu pendant 20 jours. Et deux mois après, je reçois un PV du tribunal de 300 euros pour la même infraction. Alors, la question qui est posée, M. Serin, est-ce que je peux être doublement peiné pour la même infraction?
Ben oui, parce qu'en fait, vous avez d'abord une sanction administrative. Et ensuite, vous, la sanction administrative, entre guillemets, est, j'allais dire, confirmée, mais en parallèle, vous pouvez évidemment avoir une amende. Il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que cette amende aurait pu éventuellement être contestée si les premiers faits, c'est-à-dire cette sanction administrative de suspension, s'ils avaient de votre côté fait l'objet d'une contestation. Mais ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que vous avez reconnu la situation en disant, bon, je suis pris la main dans le sac, tant pis, j'assume. Ouais, donc il y a le bah, c'est comme une suspension du permis et puis vous avez une amende derrière, donc sur un plan procédural ça ne pose pas de difficulté. Après, sauf, mais puisque vous me dites que non et que bon vous assumez, vous reconnaissez les faits, sauf à préalablement avoir contesté l'aspect administratif cette suspension.
Je comprends.
Ouais, donc le truc c'est ça, c'est-à-dire que soit on conteste et puis bon on peut contester les deux aspects. Après, ça ne veut pas dire qu'on obtient gain de cause, hein, mais ouais. Intellectuellement, on dit « mais je ne suis pas d'accord, donc je conteste les deux aspects ». Soit vous acceptez la décision parce que voilà, ça ne sert à rien de plaider, comme on dit, contre l'évidence. Et puis, l'amende qui suit derrière, elle est, entre guillemets, légitimement due. Donc ça présente aucun intérêt de contester que l'amende.
Bon, parce que... Pour nous, on pensait que soit l'amende, soit la suspension, puisqu'on est sanctionné.
Souvent on a cette notion de double peine, mais là on n'est pas dans la, comme on dit, dans la double peine au sens strict. Hein. Donc là, il y a rien d'anormal en la matière.
D'accord, Monsieur Serral. Je vous remercie.
Merci Jaffar pour votre question.
Au revoir. Merci Monsieur.
Au revoir.
Non, c'est bon. 01 53 48 3000 Jaffar. C'est Lila qui est avec nous. Lila, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour bon. Tout le monde.
Alors Lila, est-ce que vous avez le kit main libre?
Oh, attends, je conduis, je vais m'arrêter.
Ah ouais, c'est ça.
Ouais.
Ouais, parce que Maître Serran a besoin de vous entendre, alors que Maître Serran vient de rembourser son chocolat en direct.
Allô, c'est n'importe quoi, mais c'est
vous
vrai.
Allez, on vous écoute.
On vous entend, Lila.
Donc voilà, je suis dans ma voiture, j'entendais ce qui se passait là. Vous parliez du fléau en Seine-Saint-Denis sur les Roms, les mecs de l'Est, etc., qui volent des gamins et tout.
Merci Philippe. Ouais, dites-moi Lila.
Donc moi j'ai des témoins directs. Je suis allée sur le terrain parce que je suis une maman et j'ai des enfants partout. Et il y a des enfants qui sortent tout seuls, il y en a qui sont un peu qui sont en sécurité. Donc du coup, nous, on a eu des. On est parti à Noisy Sec, on a témoigné vers les marchés. Là, on a un nouveau cas à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, au McDonald's. Donc maintenant, comment vous expliquez ça ?
Non, mais pour être clair, je n'ai pas expliqué ou pas. Moi, je constate que vous faites agresser Lila, vous allez faire quoi ? Vous allez aller au commissariat pour dire, voilà, il y a une personne qui m'a agressé.
Et vous allez déposer plainte.
Voilà, vous déposez plainte, il y a une enquête qui est menée. Et c'est légitime, et c'est normal, et c'est tant mieux. Ce qui m'embête, c'est que des déclarations...
Maître Serran est allé à la base.
Ah ouais, les déclarations... Voilà, les déclarations que vous faites et qui ont tendance et qui ont eu tendance à se multiplier, le problème, Lila, c'est que une infraction se passe, un commissariat est saisi, une gendarmerie est saisie.
Oui, tout à fait.
Alors, toutes ces infractions remontent auprès d'un service, auprès du tribunal. Donc, en l'occurrence, si on est sur le 93, c'est le tribunal de grande instance de Bobigny. Et il y a un service là-bas qui s'appelle le parquet. C'est le procureur de la République. Et c'est le procureur de la République.
Est-ce que le monde juridique.
Bon, alors ouais, mais peut-être que les auditeurs qui nous écoutent connaissent pas tout ça, mais expliquer.
Mais c'est fondamental ce que dit Maître Serran.
Mais bien sûr, parce que
écoutez ça.
Ça ne dépend pas entre guillemets que du commissariat X ou la gendarmerie Y. Tout remonte donc auprès du procureur de la République. Il n'a pas été recensé. Alors peut-être que ça s'est passé cette nuit, je ne suis pas informé, ou ce matin de bonne heure. Mais
non,
mais je termine. Mais moi, je parle de manière officielle. Mais de manière officielle, vous imaginez bien que dans ce pays, quand il y a des tentatives d'enlèvement d'enfants. On peut pas taxer la police ou la gendarmerie de dire bon ça s'est passé mais on n'en parle pas et on remonte pas ça. Je termine et on remonte pas ça au procureur de la République. Comment expliquez-vous, alors peut-être vous avez une explication, comment est-ce qu'on peut expliquer que le procureur de la République, en tout cas hier, considère qu'il n'y a rien d'étayé dans les déclarations qui ont été faites? Il y a des déclarations, effectivement.
Attendez, quand vous dites rien d'étayé, c'est
rien d'étayé, c'est-à-dire que...
Est-ce que des plaintes ont été déposées?
Alors, au moment où on se parle, en tout cas, il avait été indiqué que des mains courantes avaient été déposées, ce qui n'est absolument...
Une
plainte et une main courante, c'est quand même deux choses différentes, madame. Vous allez au commissariat tout à l'heure et vous dites, écoutez, j'ai vu un clown avec un chapeau pointu, il était en train de danser, prenez ma main courante, on va la prendre. Quand il y a une agression, quand il y a une tentative d'enlèvement, je considère qu'on n'a pas de main courante à déposer, mais on dépose une plainte et on donne des éléments sérieux. La police dans ce pays, qu'on le veuille ou non, mène quand même des enquêtes pour des faits aussi graves. Je vous dis, en tout cas au moment où on se parle, il n'y a rien au niveau des déclarations qui ont été faites auprès du procureur de la République, et après enquête, il n'y a rien d'étayé. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète.
Non, mais rien d'étayé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte.
Il n'y a pas eu de dépôt de plainte, il n'y a pas eu de preuve comme quoi une camionnette blanche, verte ou rouge aurait enlevé ou tenté d'enlever un gamin. C'est tout ce que je dis. Moi, je me base sur le droit et pas sur les déclarations de mon voisin.
Oui, bien sûr. Mais quand ils vont, ces personnes-là, au commissariat, et qu'ils veulent déposer plainte et qu'on leur dit d'abord de faire une main courante, c'est pour
non,
ça.
Non, madame, non, mais écoutez, vous venez dire que vous connaissez un peu le droit, sincère, on va être sérieux deux minutes, parce que il y a quand même une communauté qui se fait tabasser, donc il faut pas dire tout et n'importe quoi. Je vais au commissariat. D'accord. Si j'y vais tout à l'heure, et on peut faire l'expérience, et je dis, écoutez, j'ai assisté à une scène, il y a un camion, encore une fois, peu importe la couleur, qui a été essayé d'enlever un gamin. Vraiment, le policier vous dit, non, déposez une main courante et pas de plainte.
Écoutez, maître, il y a eu des vidéos avec des policiers qui arrêtaient les malfaiteurs, les kidnappeurs. Comment vous expliquez ça?
De quels malfaiteurs on parle?
On parle
quels malfaiteurs?
Des gens qui ont tenté d'enlever des
les policiers, c'est-à-dire que les policiers ont refusé d'arrêter ces gens-là?
Non, ils les ont arrêtés, ils ont été filmés, maître.
Et les ont relâchés?
Non, ça c'est leur enquête. Après,
non, mais madame, je suis en train de vous dire. Non, mais vraiment, c'est important. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a aucune enquête. Madame, il y a. Au moment où je vous parle, après, si vous me parlez d'une police parallèle, peut-être. Mais au moment où je vous parle, la police républicaine est le procureur de la République. Alors après, on peut le taxer peut-être d'être complice, pourquoi pas, mais on va être sérieux. La police républicaine est le procureur de la République. Au moment où je vous parle, chère madame, il n'y a pas d'enquête menée, en tout cas, qui aurait pu aboutir de manière officielle à dire il y a un tel de telle communauté qui a essayé d'enlever tel gamin.
Maintenant, voilà. Hein. Pour la vidéo, dont vous parlez, Lila. Est-ce que vous connaissez la provenance et la date de la vidéo, la date de tournage?
Oui, on a la provenance, on a la date.
La date de tournage.
La date de tournage, c'était le 22 mars peut-être.
Et la provenance de la vidéo?
Je vérifie parce que moi j'ai des vidéos qui arrivent. La provenance, elle arrive de Sevran. C'est des jeunes qui ont fait leur enquête par eux-mêmes parce que comme ils disent que c'est un fléau, donc on nous prend pas au sérieux. Donc du coup, quand on parle de gamins, d'enlèvement, etc., bon, bah, on a entendu que c'était un fléau, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait pas faire plus. Mais quand on a des gamins qui vous parlent, qu'on filme les gamins, qu'on lui dit « qu'est-ce qui t'a pris ?», qui te dit que j'ai couru parce qu'on a essayé de m'attraper, parce que ceci et cela,
Là, mais ça voudrait dire, je vais aller dans votre raisonnement. Alors, je vais aller dans votre raisonnement. Imaginons que tout ça soit vrai. Ça voudrait dire quand même. Ça voudrait dire quand même que au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau du parquet, ce serait presque une complicité objective. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, écoutez, on s'en fout, quoi. On s'en occupe pas. Ce serait ça.
C'est peut-être qu'ils disent que, comme vous, c'est un fléau qui se passe dans le 93. Parce que ça a commencé dans le 92 à Colombes. Là, la dernière fois que j'ai entendu, c'était à Mantes-la-Jolie hier.
Madame, le terme fléau est grave. Vous connaissez personnellement des... Mais vous avez fléau, ça voudrait dire que les gamins se font enlever à tour de bras. Le terme est grave. Vous pensez vraiment que ça se passe, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, en tout cas en France? Et que, je le redis, que la justice est complètement amorphe. On considère que, c'est des petites histoires entre vous, les gars, débrouillez-vous.
Non, elle n'est pas amorphe, parce qu'on a des vidéos où il y a des interpellations.
C'est pas ça ma question, madame. Je vous dis juste que... Mais vous savez, on peut être contrôlé, on peut être interpellé, on peut même faire une garde à vue et puis se rendre compte, après enquête, qu'il y a eu une erreur, qu'on s'est trompé, que vous avez été dénoncé abusivement.
Bien sûr, parce que...
Voilà.
Parce que
mais entre le moment où... Madame, entre le moment où vous avez eu cette vidéo et le moment où on se parle, est-ce que... Le procureur de la République a engagé des poursuites ou est-ce qu'on a des personnes qui ont comparu devant des tribunaux?
Là, vous dites qu'au jour d'aujourd'hui, à ce matin, il n'y a pas.
Ah oui, enfin voilà, moi je... Non mais en tout cas, hier, quand j'ai posé la question, il n'y avait pas. Après, peut-être que ce matin, très tôt, il s'est passé un truc, mais je crois pas.
Non, mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, hier, Maître Serran est allé directement vérifier, c'est ça
On a pris
interpellé par l'information...
J'ai été voir Le Parisien qui a donné l'information, j'ai été voir BFM, on a essayé de médiatiser tout ça, parce que c'est très bien que ça tourne dans les réseaux sociaux, mais tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Tous les parents qui laissent leurs enfants dans les parcs ou marcher tout seul ou aller à l'école n'ont pas forcément les réseaux sociaux, donc ne sont pas au courant. Donc que ça soit une histoire vraie ou faux... Je pensais qu'il fallait qu'on en parle ou à la radio ou à la télé. Et puis après, les gens...
Vous savez, quand on est, encore une fois, enfin, ou alors on a affaire à des parents qui sont assez surprenants. Mais évidemment qu'on ne laisse pas son gamin comme ça dans un parc.
Voilà.
Mais ça, c'est pas le rhum qui est à l'origine de ça, on est d'accord?
Non, c'est pas le rhum.
On est d'accord. Voilà. Donc, ce que vous laissez entendre, quand je vous écoute, je termine. Mais quand je vous écoute, mais pas que vous, mais quand je lis ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que si on laisse un gamin dans un parc, alors déjà le laisser tout seul dans un parc, c'est les parents qu'on doit mettre en prison. Si le gamin va à l'école tout seul ou avec ses camarades, il peut se faire enlever par cette fameuse camionnette blanche avec des roms à l'intérieur. Vous voyez bien qu'il y a quand même un décalage. Dire aux parents faites attention et puis il faut pas laisser vos gamins traîner n'importe où, mais c'est juste le bon sens. Quand on est parent, normalement on n'a même pas besoin de nous le rappeler. C'est dans notre ADN. Mais laisser entendre que derrière tout ça, il y aurait une communauté, pardon, mais moi je trouve ça gravissime.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai. Il ne faut pas les montrer du doigt. C'est une communauté c'est difficile pour eux, etc.
On est d'accord. On est d'accord.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est humain, c'est des êtres humains. On est les premiers à pouvoir aider, on aide. Mais c'est juste que parler aux gens, au peuple... dire que faire attention que ça soit un roumain ou un...
Mais on est d'accord, se retrouve là-dessus, mais bien sûr, quand vous avez des enfants, il faut leur apprendre la prudence. Mais voilà, je trouve dangereux de balancer des trucs comme ça et dire faites attention, il y a des Roms qui sont en train de chasser des enfants. Je trouve ça gravissime de dire des trucs pareils, franchement.
Merci Lila pour votre intervention. Alors donc, d'autres questions juridiques dans un instant avec Maître Serran. Si vous voulez l'interroger, poser votre question, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez. Maître Serran, 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Maître Serran répond à vos questions au 01 53 48 3000. Alors, il y a beaucoup d'appels concernant cette affaire de camionnette, Maître Serran. Oui. Et on n'a pas fini d'en parler, mais ça pose la question de savoir comment ce genre d'information peut prendre, peut être approprié.
C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que les auditeurs comprennent bien que si, évidemment, demain, comme dira l'autre, les faits sont avérés, la justice va suivre son cours. Je dis simplement qu'au moment où on se parle, sauf erreur, il n'y a pas de preuves tangibles ou de procédures officielles engagées par un parquet pour dire on va poursuivre M. X ou M. Y qui aurait tenté d'enlever tel ou tel enfant.
Abdel, au 01 53 48 3000. Abdel, bienvenue.
Oui, bonjour monsieur Philippe, bonjour monsieur Mercier.
Bonjour Abdel.
Vous allez bien ?
Ça va bien avec vous, Abdel ?
Ça va. Je vous appelle, j'ai mon petit frère qui a un problème avec les filles en fait. On a fait une fête, comme un mariage, mais c'est pas marié. Du coup, après, ils ont consommé. Et là, c'est quand il est tombé enceinte et s'est barré pendant 2 ans. Et là, au Maroc, en fait, elle a pris toutes les photos et il a posé plainte. Et maintenant, en fait, au bled, il s'est renseigné qu'on croit qu'il l'a mis le mot, ça fait ce bout de zogia. En fait, elle l'a marié, en fait.
D'accord. Lui, donc, il y aurait eu quoi un contact physique entre votre frère et cette fille? Elle est tombée enceinte?
Exactement.
Ouais. Bon, ce qui, dans la vie, peut arriver. Donc, en soi, c'est pas un délit. Et ensuite?
Et ensuite, en fait, elle était étudiante ici. Ouais. Lui, l'université française marocain.
Ouais.
Et du coup, lui, quand il l'a contacté après un an, il avait la fille, il a un enfant avec elle. Après qu'il avait 4 mois l'enfant, il lui a demandé de mettre la reconnaissance.
Ouais.
Et lui, il a demandé un test d'ADN, parce que c'est pas normal pour lui.
D'accord. Bon, dans un premier temps, il considère qu'il est peut-être pas le père.
Exact.
D'accord.
Mais la fille, il a pas voulu faire ça. Et du coup, il est parti au Maroc et il a posé plainte. Enfin, c'est pas elle, c'était son père qui l'a parti au Maroc, il a posé plainte. Et du coup, maintenant, il s'est marié avec elle sans être présent.
Oui, enfin, je vois pas ce que peut valoir un mariage de cette nature. Alors, je suis désolé, je suis pas un spécialiste du droit marocain, mais moi, je vais me baser par rapport à ce qui se passe sur le territoire français. Vous me dites qu'il est franco-marocain.
Oui.
Bon, bah donc on va raisonner en appliquant le droit français. Donc il se peut que l'intéressé soit le père, comme dirait l'autre. Bon, on parle parfois d'accident, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, il se peut que ce soit le père. Après, de deux choses l'une, soit la mère de l'enfant l'établit, mais c'est très facile, c'est-à-dire que si spontanément il dit, bah non, mais moi je suis pas le père et j'ai pas envie de reconnaître l'enfant, il y a des procédures devant le tribunal de grande instance, donc elle pourrait assigner votre frère donc devant le magistrat et puis demander, en tout cas le magistrat ordonnera dans ce cas-là un test sanguin et de deux choses l'une, soit il accepte en disant je suis persuadé que je suis pas le père. Et puis il fait le nécessaire et ça va être une vérité scientifique. C'est-à-dire que si on vous dit écoutez, c'est compatible et ce monsieur est le père, dont acte, mais ça pourrait être aussi l'inverse. Mais s'il refuse de d'accepter ce test, on parle de présomption. C'est-à-dire qu'on va se dire s'il refuse, c'est qu'il est certain d'être le père. Donc le fait de refuser va avoir pour conséquence de considérer qu'automatiquement votre frère est le père de cet enfant. Mais tant qu'on n'a pas ça pour l'instant, monsieur, tant que, encore une fois, si lui conteste, mais tant qu'il n'y a pas une décision de justice qui dit qu'il est ou qu'il serait le père de l'enfant, pour l'instant, il se passe rien, quoi. Après, je peux pas vous répondre sur l'aspect Maroc, ça, j'en ai aucune idée.
Parce qu'en fait, entre temps, lui, il s'est remarié, maintenant il a un enfant, il a 2 enfants avec une autre femme. Et ici en France, il est marié ici en France, il n'y a pas de problème, marié à l'Amérique, etc. Et en fait, la peur qu'on a, est-ce que avec ce lac de mariage, il va ici poser une plainte pour les gamins, machin et tout, etc.
Juste pour essayer de comprendre, c'est-à-dire que là, l'histoire, enfin cet enfant qui est contesté par votre frère, ça, il a quel âge aujourd'hui?
Et il a 2 ans.
D'accord. Mais et donc, alors, il y a eu cette relation, l'enfant est arrivé, votre frère, entre-temps, s'est marié.
Et il s'est marié. Mais la fille s'est barrée, en fait. On a vu plus.
Non, mais ça, d'accord. Mais alors, si elle s'est barrée, il est où le problème?
Le problème, maintenant, au Maroc, et il y a quelqu'un qui travaille au tribunal, il lui a dit, voilà, ils ont posé une plainte l'année dernière, et cette année, ils avaient des jugements il y a 2 semaines.
Ah non, mais voilà, c'est ce que... Alors, je suis désolé, j'ai pas les compétences pour le droit marocain, et je crois que, sincèrement, il faudrait peut-être vous adresser plus à un confrère sur place. Moi, je vous réponds par rapport, alors, à cette double nationalité, donc à la nationalité française de votre frère, et je vais vous répondre par rapport aux droits qui s'appliquent sur le territoire français.
D'accord. En tout cas, il n'y aura pas un truc pour les gamins ou machin ici en France.
Mais après, on va imaginer que cette femme, que la mère de cet enfant, viennent sur le territoire français, engagent une procédure contre votre frère, que sur le plan scientifique, on considère que votre frère est bien le père de cet enfant. Il y aura forcément une conséquence. Alors, on ne va pas l'obliger à se marier avec la mère, mais il y aura forcément, enfin, si la mère le demande, une pension alimentaire pour l'enfant, enfin, une contribution. Ça va être ça, la conséquence. C'est-à-dire que même s'il dit, écoutez, d'accord, cet enfant ne m'intéresse pas, je veux pas avoir de relation avec lui, on s'en fout. À partir du moment où on considère, en tout cas scientifiquement, que c'est bien le père, il peut être condamné donc à verser une somme d'argent à cet enfant.
Ok, d'accord. C'est bien clair,
merci. Ah ouais, bien sûr, hein, donc ça c'est tout à fait possible, évidemment.
D'accord.
Maintenant, si on considère après prélèvement sanguin que c'est pas le père, ça s'arrête là et puis il pourra se retourner contre cette femme s'il le souhaite.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, Abdel. Merci pour votre question. Soraya nous rejoint. Bienvenue, Soraya.
Oui, allô, bonjour.
Bienvenue, Soraya.
Merci, bonjour Maître Serin.
Bonjour Soraya.
Je vous appelle car j'ai un membre de ma famille qui est divorcé, elle a 3 enfants. Ils sont mineurs et donc il y avait eu au moment du jugement une pension alimentaire qui avait été fixée et donc le papa n'a pratiquement jamais honoré donc le versement des pensions alimentaires. C'était donc pour connaître donc les possibilités pour elle pour qu'elle puisse se retourner et exiger cette pension auprès du père.
D'accord. Alors, il y a mille options. C'est-à-dire que, pour que les auditeurs comprennent, à partir du moment où il y a une décision qui est rendue, il faut aller voir un huissier de justice. Alors, en règle générale, c'est votre avocat qui s'occupe de ça. Mais vous avez le jugement, il faut le donner à un huissier de justice. L'huissier de justice va débarquer au domicile de la partie adverse, donc du père, et on appelle ça la signification. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, cette décision, entre guillemets, devient officielle. Et donc, ce qui est décidé, ou ce qui a été décidé par le juge, et notamment en matière de pension alimentaire, de contribution ou autre, doit être réglé par le débiteur, donc par le père. Si spontanément ça ne se fait pas, on considère que 2 mois de pension impayée autorise à engager alors une procédure soit pénale, puisque on parle de, alors le terme est assez curieux, mais on parle de d'abandon d'enfant, ça s'appelle comme ça. Soit une procédure civile. Procédure civile, c'est-à-dire que l'huissier de justice va avoir toutes les options, toutes les possibilités pour une saisie bancaire, pour une saisie du salaire, si l'intéressé travaille. Il y a aujourd'hui maintenant la possibilité aussi de justifier auprès de la CAF que vous avez fait le nécessaire, que vous avez essayé de récupérer cet argent et que monsieur fait le malin. Dans ce cas-là, c'est la CAF donc qui va prendre la relève et c'est la CAF qui a quand même une force de frappe un peu plus consistante donc qui va se débrouiller pour récupérer cet argent entre les mains de monsieur. Mais ce qui est important de dire et de faire, c'est qu'on a parfois des personnes qui atterrissent au cabinet qui viennent nous dire j'ai une décision qui a condamné monsieur et puis on vient nous voir parfois 4, 5, 6, parfois 1 an après le rendu de la décision. Il faut pas attendre tous ces délais. C'est-à-dire que, allez, on va dire délai normal, si au bout de 2 mois vous avez l'impression que l'intéressé, pour des raisons X ou Y, de bonne ou de mauvaise foi, ne souhaite pas régler, bah dans ce cas-là, faut poursuivre. Après, et là je m'adresse à ceux qui ont été condamnés à régler des pensions alimentaires, même chose, si vous avez l'impression qu'il y a eu un changement dans votre situation, un changement dans votre revenu, il ne faut pas hésiter à ressaisir le juge. C'est une requête auprès d'un juge, qui s'appelle le juge aux affaires familiales, et le magistrat rendra une nouvelle décision en fonction donc des éléments que vous allez lui fournir. Mais n'attendez pas d'être noyé sous une dette pas possible pour ensuite dire bah, « En vérité, je n'ai pas les moyens depuis très longtemps. Bah, » Dans ce cas-là, il fallait faire la démarche et aller voir le juge. Mais vous voyez, votre sœur n'est pas démunie de moyens.
Oui. Alors, est-ce que aussi ce qui la freine, ce sont les frais juridiques qui peuvent être engagés aussi derrière ? Est-ce qu'elle a la possibilité consulter.
Bah ouais, bon. Non, il y a pas, il y a pas d'aide juridictionnelle pour faire exécuter. C'est-à-dire que là, elle va aller voir l'huissier. Donc il faut savoir que la règle étant que les frais seront mis à la charge de monsieur. Mais bon, c'est normal que l'huissier. Ah oui, ouais, ah oui voilà. Mais par la suite. C'est comme dans un procès. On a ce qui s'appelle l'article 700 dans un procès. C'est-à-dire que ce que vous payez en frais, le tribunal peut le mettre à la charge de la partie adverse. Donc, c'est vrai que il faut quand même mettre la main à la poche dans un premier temps.
Ouais.
Mais là, ça fait longtemps que monsieur ne règle pas?
Oui, tout à fait, ça fait...
On est sur plusieurs mois.
Plusieurs mois, oui, on est à plusieurs mois.
Bah voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il vaut mieux éviter, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, ça s'accumule par définition, mais vaut mieux éviter de laisser l'eau couler comme ça, et ensuite de se dire, bah tiens, on va faire quelque chose. Donc si vous voyez que dans les deux mois, pour une raison X ou Y, l'argent n'arrive pas, il faut commencer à engager les procédures.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, quand
la
personne en face de vous vous promet que...
Ouais, mais bon, on peut le promettre une fois, on peut le promettre deux fois, après au bout d'un moment, voilà, il faut être aussi raisonnable et se dire, bah tant pis, j'engage la procédure, après si demain il paye, vous pouvez toujours vous retirer, mais au moins il y a une sorte d'épée de Damoclès quand même, c'est ça qui est important.
Tout à fait. Au moins, c'est-à-dire qu'il va y avoir un accès. Ok, mais il y a plusieurs possibilités, c'est noté.
Voilà. Alors, Soraya, on est pris par le temps. Vous pouvez continuer la conversation par téléphone. Maître Serra nous donne son numéro de téléphone.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Maître Serra, vous avez des gâteaux à terminer, un petit chocolat, et le vendredi est bien entamé.
C'est vrai.
Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve beaucoup de plaisir, Maître Serra, vendredi
Merci
prochain.
Merci à tous.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.